Alors, il y a des gens qui s'intéressent à leurs ancêtres. C'est un peu mon cas par moment, tous les 10 ans, ça me revient. Heureusement, entre-temps, il y a des arrière-cousins, des arrière-cousines qui ont fait des recherches poussées. Et je n'ai qu'à récolter le fruit de leurs recherches. J'ai ainsi découvert que l'arrière-grand-père de mon arrière-grand-père est né un 25 décembre. Voilà, une occasion de plus, une raison de plus pour fêter Noël. Mais c'était en 1794, vous voyez pas ça? Et le 25 décembre ne s'appelait pas le 25 décembre 1794. Il s'appelait le 5 Nivose en 3. Voilà. C'est fascinant de voir l'histoire, de voir aussi la brièveté de la vie, de voir certaines choses que nous apprennent les généalogies. Et la Bible s'intéresse beaucoup aux généalogies. Quand j'étais jeune, j'avais appris que les pygmées d'Afrique avaient été intrigués par un passage de la Bible qui les intriguait plus que les autres et qui avait amorcé leur amour de la Bible. C'était les 15 premiers chapitres du premier livre des Chroniques qui comportaient que des généalogies. Mais dans leur culture, les généalogies étaient très importantes. Et donc, ça, pour eux, la Bible, c'est un livre sérieux, parce qu'il y avait des généalogies. Alors, la Bible s'intéresse beaucoup aux généalogies. Et celle de Jésus, à celle de Matthieu, à celle, et Luc aussi, a une généalogie. Donc, mais, chapitre 3, mais ces généalogies sont célèbres, mais la plus célèbre, c'est bien sûr celles qui sont contenues dans le livre de la Genèse. Celles de la Genèse sont célèbres. Parce que derrière ces noms, il y a une histoire. Et plus qu'une histoire, il y a l'histoire de notre salut. Il y a bien sûr les relations humaines, parfois compliquées, mais il y a l'histoire de notre salut. Et on devine beaucoup de choses et on apprend beaucoup de choses. Et donc avec Abraham, on va faire une lecture dans la vie d'Abraham. On va apprendre par ce texte d'où il vient, qui il est et où il va. Et donc, ce texte que nous lisons, c'est dans cette série qui, autour de Noël, où on rappelle les promesses de Noël. On a parlé la semaine passée de la promesse faite à Adam et Ève, juste après donc, l'irruption du péché dans le monde. Et ici, on voit que Dieu promet à Abraham que toutes les nations seront bénies par sa postérité. Voici le texte, Genèse 11, 27, 12, 9. Voici la postérité de Théra. Théra engendra Abraham, Nahor et Haran. Haran engendra Lot. Haran mourut en présence de son père Théra au pays de sa naissance, à Ur ou Ur des Chaldéens. Abraham, qui s'appelait donc Abraham à l'origine, et Nahor se marièrent. La femme d'Abraham se nommait Saraï. Et la femme de Nahor, Milka, fille d'Aran, père de Milka et père de Yishka. Saraï était stérile et n'avait pas d'enfant. Théra prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils d'Aran et de sa belle-fille Saraï, femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble d'Ur des Chaldéens pour se rendre au pays de Canaan. Ils arrivèrent à Aran et ils y habitèrent. La durée de la vie de Théra fut de 205 ans, et Théra mourut à Haran. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » En ta postérité, donc. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Abraham prit sa femme, Saraï, son neveu Lot, et tous les biens qu'ils possédaient, le personnel qu'ils avaient acquis à Haran. Ils sortirent pour se rendre dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent donc au pays de Canaan. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Moré. Les Cananéens habitaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Et Abraham bâtit un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Puis il leva son camp de là pour se rendre dans la montagne, les montagnes à l'est de Bethel. Il dressa sa tente entre Bethel à l'ouest et Haï à l'est. Il bâtit là aussi un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Et Abraham repartit en se rendant par étapes vers le Négev, vers le sud. Ouvre pour nous encore ton saint livre, Seigneur. Amen. Alors, nous voulons d'abord voir l'arrière-plan d'Abraham à Ur en Chaldée, comme il est dit dans le texte. Ur, c'était une ville du sud de la Mésopotamie, donc on dirait aujourd'hui au sud de l'Irak. Ses origines remontent au 5e millénaire avant Jésus-Christ, donc 6000 ans avant nous. Les archéologues ont déterré certains de ses trésors et des milliers de tablettes d'argile qui servaient de support à l'écriture. Donc une société très évoluée. À l'époque d'Abraham, vers 1800 avant Jésus-Christ, c'était une ville riche avec ses savants, avec ses lois élaborées, avec sa religion. On sait que dans les villes de la Mésopotamie, au temps d'Abraham, on apprenait aux enfants à extraire des racines carrées et cubiques des nombres. Vous voyez, Pacha, les maisons étaient équipées du tout à l'égout. Et on dit que ça fonctionnait encore 4000 ans après. Donc les habitants vénéraient, ça c'est une chose, mais les habitants vénéraient plusieurs dieux. Et le temple du dieu de la lune était particulièrement important. Et dans cette civilisation antique, Dieu se révèle à un homme donc nommé Abraham, qui ne s'appelle pas encore Abraham, c'est Abraham. Et c'est probablement quelqu'un qui a une certaine importance, puisqu'il peut, faire sa généalogie sur des générations à des générations. Une foi, il a certainement une foi en Dieu, certainement semblable à celle de Noé, son ancêtre. Et c'est possible qu'il ait cette foi, mais il faut quand même signaler que dans la famille d'Abraham, les choses sont très mélangées. Il y a le culte de la lune qui a toute sa place, chez son père en tout cas. C'est ce qu'on voit dans certains textes. Et quand Dieu donc se révèle à Abraham et l'appelle à sortir de la ville d'Ur, quelque chose de nouveau est en train de se passer. Dieu prend une initiative. Il demande des ruptures. Il invite à marcher par la foi et il engage l'avenir. Et c'est ces trois choses que nous allons voir maintenant. Alors Dieu d'abord prend l'initiative de façon surprenante. L'ordre est formel. Nous l'avons au début du chapitre 12. Quant à toi, on peut traduire « quant à toi ». Donc c'est vraiment lui qui est concerné. « Quant à toi, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père. » Donc à quel endroit Abraham entend-il cette parole? Tel que le texte de la Genèse présente les choses, je l'ai lu tout à l'heure, nous avons l'impression qu'il quitte Ur avec son père et que Dieu l'appelle plus tard au cours de son séjour à Haran. Mais Étienne, dans le livre des Actes, dit que Dieu s'est révélé à lui à Ur. Étienne le dit en Actes 7, 2 et 4. Donc, le plus simple, c'est de penser que Dieu s'est révélé à lui à deux reprises. Il y a eu deux départs et donc deux appels, quelle qu'en soit la forme. Et donc en quittant Ur et ensuite en quittant Haran, Dieu répond à une initiative de Dieu. Abraham répond à une initiative de Dieu. Alors, on ne les remarque pas toujours, les initiatives de Dieu dans notre vie. Mais selon la Bible, la foi vient de l'écoute de la parole de Dieu. Si nous avons la foi ce matin, elle est venue de l'écoute de la parole de Dieu. La foi naît du message que l'on entend, Romains 10, 17, et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Donc Dieu a pris l'initiative avec son livre et avec la prédication de l'Évangile, et c'est ça qui, un jour, a fait naître en nous la foi. Alors Dieu nous appelle avant qu'on ne pense à lui. Il y a un beau chant qui le rappelle, avant la création, avant tout, tu pensais à moi. Et Dieu nous appelle avant qu'on ne pense à lui. Il pense à nous depuis, Depuis, on ne peut pas y penser parce que ça nous dépasse. On le cherche, c'est vrai, confusément, parce que lui nous cherche, tout d'abord. Et il se laisse trouver par nous. C'est un peu comme un jeu de Colin Maillard. On a tous joué à ça l'été, pendant l'enfance, je veux dire. Eh bien, on a un bandeau devant les yeux et puis on doit trouver une personne. Eh bien, voilà, mais on sait bien que la personne se laisse trouver par nous. Elle se met devant nous et on est obligé de la trouver au bout d'un certain temps. Alors, on tâtonne, on essaye de comprendre et petit à petit, on discerne la voie à suivre. Mais c'est Dieu qui nous a conduits dans tout ça. L'importance de l'initiative de Dieu envers Abraham est encore soulignée par la promesse qu'il fait. Il y a cette promesse. « Je ferai de toi l'ancêtre une grande nation, je te bénirai, je ferai de toi un homme important, tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui t'outrageront. » Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Sur cette promesse, 5 commence par le mot « je ». En théologie chrétienne, on appelle ça la grâce. Dieu promet, Dieu propose, et puis Dieu donne. On y répond. Du moins, j'espère qu'on y répond, chacun. Mais on ne mérite rien. On n'arrache rien à Dieu. On ne déclenche rien. Le déclencheur, c'est Dieu. Et il y a des gens qui confisquent le nom de Dieu au bénéfice de leurs propres intuitions. Mais ce qui reste vrai, néanmoins, c'est que Dieu intervient dans nos vies et que nous avons à lui répondre. Donc, il y a ça. Et puis dans la réponse d'Abraham, il y a 2 aspects, des ruptures et une marche par la foi. Alors tout d'abord, des ruptures. Pensons aux ruptures d'abord. Abraham doit quitter ses hauts lieux de la civilisation que sont Ur et Haran. J'ai insisté tout à l'heure là-dessus. Ce sont des civilisations qui ont laissé énormément de vestiges, des bibliothèques entières, des palais, des temples. Et il s'en va en Canaan. Alors en Canaan, c'est un pays inconnu. C'est un pays relativement pauvre. Il quitte la ville pour devenir un éleveur nomade, on va dire. Il quitte sa famille en 2 temps, comme nous l'avons dit. Tout d'abord, Abraham quitte Ur avec son père, sa femme et son neveu. Son frère Nahor et la veuve de son père, de son autre frère, restent à Ur. Abraham fait 1000 km pour s'arrêter à Haran. Puis il repart, donc comme on l'a dit, sans son père, qui en fait ne partageait pas sa foi. Alors on imagine les débats de famille. On imagine les débats en famille à chaque fois. Regardez ce frère Nahor. Il croit en un Dieu unique, comme Abraham. C'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on voit en Genèse 31, 53. Mais il est attaché à cette haute civilisation d'Ur. Et puis son fils Bethuel est polythéiste. Alors Nahor reste à Ur, puis remonte la vallée de l'Euphrate pour s'installer pas loin d'Haran. Mais jamais il ne va en Canaan. Alors qu'Abraham quitte tout ce qu'il connaît pour se lancer dans l'inconnu. Il y a ici quelque chose qui ressemble à ce qui se passe quand on se convertit à Jésus-Christ. Jésus dit, toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Toi, ici, quant à toi, Abraham, va, va en Canaan, vers la terre que je te montrerai. C'est une décision solitaire. On est toujours solitaire devant la mort. On est solitaire aussi devant l'appel de Dieu, la conversion. Personne ne peut se convertir à notre place. Et si la famille n'est pas d'accord, la question se pose, qui aura le dernier mot? Dans certains pays du monde, la rupture peut être brutale. Elle peut même coûter la vie. Partout et sans être forcément violente, la rupture est psychologiquement indispensable de toute façon. Chacun doit répondre pour lui-même devant Dieu. Et cette notion de rupture va encore plus loin. Se convertir à Jésus-Christ, c'est plus que croire, c'est se détourner de son péché, c'est se repentir de son péché. c'est se détourner du mal, se détourner des idoles pour servir le Dieu vivant. Le Dieu vivant est vrai, comme dit Paul à la fin du chapitre 1 de 1 Thessaloniciens. Alors, il n'y a pas de conversion sans rupture. Sinon, ce n'est pas une conversion. C'est un petit élément, une petite phase psychologique, mais qui ne durera pas. Il n'y a pas de conversion sans rupture. Quelles sont les ruptures qui s'imposent à nous? Alors, c'est là qu'on parle de la marche par la foi. Mais avant de parler de la marche par la foi, il faut se demander chacun quelles sont les ruptures qui s'imposent à moi. Il y a des ruptures. De toute façon, dans toute vie chrétienne, il y a des ruptures qui se font au moment de la conversion, il y a des ruptures qui sont en train de se faire, et il y a des ruptures que Dieu me demande pour poursuivre ce chemin de conversion dans ma vie. Quelles sont les ruptures, la rupture qui s'impose à moi? Alors, la marche par la foi. Donc. Obéir à Dieu oblige à discuter en famille, à prendre des décisions, on l'a dit. L'unanimité ne se fait pas toujours, et rarement. Alors on a dû entendre toutes sortes de choses dans les repas avec Abraham. Ton Dieu Abraham, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres dieux? Qui n'a pas entendu ça? Quitter la belle vie que tu connais ici pour aller en Canaan, 2000 kilomètres à pied, mais tu es fou, tu es un fanatique. Tu connais qui là-bas? Tu connais qui en chemin? Donc la Bible dit qu'Abraham est parti sans savoir où il allait, Hébreux 11, 8. Et c'est ce pas de la foi qui est mis en valeur, qu'on met en valeur en rappelant tout ça. Il est parti sans savoir où il allait, comme nous allons partir en 2023 vers une nouvelle année. Une année de grâce, bien sûr, mais une année aussi sans savoir, une année nouvelle, sans savoir où nous allons. La destination est indiquée en Genèse 11, 30, le pays de Canaan. Mais Abraham ne connaît ni les étapes, ni le point précis où il est censé arriver. Et donc, partir ici, c'est vraiment, il part parce que Dieu le demande. Et c'est un bel exemple de foi. On peut dire qu'Abraham a lâché la proie pour l'ombre par la foi. Voilà comment l'Épître aux Hébreux le présente. Par la foi, donc c'est Hébreux 11. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Par la foi, il a séjourné en étranger dans le pays qui lui avait été promis. Il a vécu sous les tentes, de même qu'Isaac et Jacob, qui sont héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité au fondement inébranlable dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11, 8 à 10. On peut dire que d'une certaine manière, nous sommes tous dans ce cas-là. Si nous sommes chrétiens, nous sommes tous dans les pas d'Abraham. Nous regardons en avant. Nous sommes des hommes et des femmes qui regardons en avant. Nous ne misons pas uniquement sur le temps présent. Nous ne misons pas uniquement sur la sécurité, sur la richesse ou sur les biens culturels d'aujourd'hui, de notre civilisation d'aujourd'hui. Et ce regard en avant, c'est vers la destination finale où nous serons pour toujours avec le Christ. Et c'est aussi vers des destinations intermédiaires que nous regardons, des projets qui n'ont pas encore abouti. Dans un monde, par exemple, dans un monde centré sur les plaisirs immédiats, les jeunes parents ont accepté les contraintes de la vie de famille pour avoir des enfants. C'est regarder plus loin que de faire ça. Chrétiens ou non, ils mettent une croix sur des sorties, sur des nuits calmes, sur des vacances de rêve, en vue de l'avenir. Dans la vie, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans des aventures sans croire en Dieu. Les chefs d'entreprise, ils se lancent dans des aventures ils ne croient pas toujours en Dieu, hein, mais c'est une vraie aventure que de fonder une entreprise, que de la faire traverser les difficultés économiques, hein, et d'aller de l'avant, hein, dans notre monde. Alors heureusement, quand on va les interviewer à la télévision, on dira d'une façon tout à fait laïque que ces gens ont eu la foi. Et eux-mêmes peut-être, hein, le diront, hein, ou la chance peut-être. Mais le chrétien ne connaît pas plus l'avenir que quiconque. Il peut se tromper, hein, mais sa foi en lui est ancrée en quelqu'un qui, sur des milliers d'années, s'est montré fidèle. Et c'est ça tout l'intérêt, hein, de remonter le temps pour voir tous ces hommes fidèles à qui Dieu a fait des promesses et à qui Dieu s'est montré dans sa vérité. Il y a donc le chrétien a foi en Dieu. Et c'est vrai dans une vie d'église. La plupart de nos églises évangéliques, et notre église aussi, ça commence par quelques familles qui ont troqué la sécurité d'une église bien établie pour les incertitudes d'une église pionnière, avec tout ce que ça comporte comme aléa. Alors si on voulait rassembler tout ça, on pourrait dire nous, aujourd'hui, serions-nous moins courageux qu'un chef d'entreprise qui ne croit pas en Dieu? Alors le confort d'Our, c'est vrai, c'est pas rien. Le confort d'Aran, c'est pas rien. Il faut laisser tout ça derrière soi. La foi d'Abraham sera mise à l'épreuve. Sa foi deviendra visible par des actes. Au verset 4, par exemple, il est dit qu'il quitte Aran. Bien. Au verset 7, il dresse un autel à Sichem, en Canaan. Au verset 8, il dresse un autel entre Bethel et Haï. Et il prie, il invoque Dieu, il prie. Donc ça nous rappelle qu'il y a le grand départ de la foi. Bien. Mais après, eh bien, il y a toutes sortes d'actes de foi dans la même perspective. Il faut redémarrer après un temps d'arrêt. Il faut se réapproprier les promesses de Dieu. Il faut obéir, enfin. C'est aussi ça, la foi. La foi, ce n'est pas seulement l'acte du départ. C'est ensuite, dans la vie chrétienne, redémarrer après un temps d'arrêt. C'est ça, la foi. Se réapproprier les promesses de Dieu, obéir dans tel ou tel aspect de notre vie. C'est ça, la foi. Donc, dans notre vie chrétienne, là aussi, et c'est peut-être le cas ce matin, nous avons fait le bon départ, mais peut-être que nous ressentons le désir et Dieu nous interpelle pour redémarrer après un temps d'arrêt que nous avons eu dans notre vie chrétienne. Il faut redémarrer. Et il faut redémarrer par la foi, dans la bonne direction. Peut-être que après un bon départ, nous avons besoin de nous réapproprier les promesses de Dieu, parce qu'il y a de nouveaux défis. Dans la suite du grand défi, mais il y a de nouveaux défis. Se réapproprier les promesses de Dieu. Remettre notre confiance dans les promesses de Dieu. Peut-être que nous avons de nouveaux domaines d'obéissance. Et là aussi, nous devons vivre par la foi, faire un acte de foi. Alors, l'avenir est engagé, c'est ce qu'on voit aussi. En demandant à Abraham de se mettre en route, Dieu fait des promesses qui conditionnent tout ce que nous appelons l'Ancien Testament. Tout le reste de l'Ancien Testament, donc jusqu'à Malachi, est conditionné par les promesses qu'il fait Abraham. Nous en avons déjà parlé en soulignant l'initiative que Dieu prend. Toutes ces promesses sont au futur. Ce sont des choses qu'Abraham ne voit pas au moment où Dieu lui parle. S'il accepte de partir sur la base de ces promesses-là, c'est qu'il y croit. Mais il n'a aucune preuve que tout cela va se faire. Alors certaines de ces promesses, il va les voir se réaliser de son vivant. Mais deux de ces promesses portent sur un avenir assez lointain. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Oh là là. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta postérité. Oh là là. Ça, c'est vraiment trop loin pour qu'ils le voient. La grande nation, ce sera Israël. Oui, c'est vrai. Mais Abraham n'a pas encore d'enfant. Voilà donc une promesse qui sera le fil conducteur de la suite de son histoire et de tout le reste du livre de la Genèse, d'abord. Pour devenir l'ancêtre d'une grande nation, Abraham doit commencer par avoir un enfant. Ça commence par un enfant. Et ça, c'est ça qui sera le plus dur. et derrière lui, il y aura un peuple ensuite et une terre. Donc voilà une promesse qui vaut pour des centaines d'années. Bien. Mais il y a encore mieux. Il y a la promesse d'une postérité qui sera en bénédiction pour toutes les nations. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi, à travers ta postérité. Tous les peuples qu'Abraham connaissait, oui, il y en avait déjà beaucoup, vous n'avez qu'à lire le début de la Genèse, au chapitre 11, il y a toute la pléiade des peuples qu'on pouvait connaître quand on habitait cette région. C'était déjà pas mal, mais Abraham ne connaissait pas les Amérindiens, il faudra attendre un moment, Il ne connaissait pas les Chinois, il ne connaissait pas toute la diversité du continent africain. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi, à travers ta postérité. La foi d'Abraham a été un exemple, une inspiration, une bénédiction pour une multitude de gens, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas ça que dit le texte. Ce que Dieu met dans cette promesse, c'est que le salut du monde passerait par Abraham et par l'un de ses descendants. Et donc ce descendant, c'est Jésus-Christ, de la lignée d'Abraham. La postérité d'Abraham, comme l'appelle l'apôtre Paul en Galates 3,16. Donc c'est la deuxième grande promesse de la Bible. Dieu promet lors de la chute que la postérité de la femme brisera, écrasera le serpent ancien. Et ici, Dieu prédit un sauveur dans la famille d'Abraham. Et toutes les familles de la terre seront bénies par ce sauveur qui sera la postérité d'Abraham. Alors, qu'est-ce qu'Abraham a fait pour mériter de telles promesses ? Rien. R-I-E-N. Rien. Il a répondu simplement, en partant d'Our, en partant de Haran dans un second temps. En termes bibliques, on appelle ça une alliance, mais il faut se méfier du mot alliance. L'alliance, dans le sens biblique, ce n'est pas une sorte de contrat entre deux parties égales. Non, on se tromperait si on pensait ça. L'alliance, dans le sens biblique, c'est une relation privilégiée que Dieu propose et que l'homme accepte, avec des obligations que cette relation suppose. Et donc, il y a la rupture du départ. Ouais, c'est parti. Puis il y a la longue route à suivre. Puis l'engagement ensuite, renouvelé, en vue de l'avenir. Donc ça va loin. Il y a un commencement, il y a toute une continuité, et puis il y a une perspective. Alors, concluons. Abraham a vécu des milliers d'années avant nous. Quand on aime, on ne compte pas, mais c'est quand même beaucoup de temps. Il a vécu quand même si le temps nous sépare de lui, il a vécu quand même dans une civilisation pas très éloignée de la nôtre. Il a vécu au sein d'une civilisation riche, comme nous. Il a eu des attaches familiales, comme nous. Des attaches, en tout cas. Il a vécu avec des craintes et des espoirs, comme nous. Sa marche avec Dieu est un exemple pour nous et c'est un maillon essentiel dans le plan de Dieu pour le monde entier. Alors nous ne savons pas ce que donnera demain notre obéissance d'aujourd'hui. Chacun, et ça nous interpelle, chacun est appelé à des petits actes d'obéissance. Je le rappelais à quelqu'un tout à l'heure, juste avant le culte, on se rappelait ça. Dieu les voit, et ces petits actes d'obéissance, aussi petits qu'ils puissent être, Dieu, quand nous appelle, il nous appelle à un petit acte d'obéissance, faisons-le. Nous ne savons pas la répercussion de ce petit acte sur l'avenir, sur demain. Mais à chacun, au seuil d'une nouvelle année qui va aussi commencer bientôt, Dieu dit, quant à toi, toi, suis-moi.